Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Et puis bonjour, 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 quatre fois bonjour parce que c'est jeudi, la quatrième journée de la semaine et c'est pour nous jeudredi parce qu'on est en week-end à partir de demain. Alors aujourd'hui, c'est le 20 août. Et à la météo, tout rapidement, pour le Québec, les provinces atlantiques, l'Ontario, c'est ensoleillé, devenant peut-être alternance de soleil et de nuages en mi-journée. Il y a quand même pour l'est du Québec un peu, et dans les provinces atlantiques, donc ça inclut Saint-Jean de Terre-Neuve, donc ça, il y a des risques de pluie en après-midi. Mais maximum au Québec, en Ontario, on est autour de 20-24. Vous m'excusez, je dois absolument remettre... Ouais, voilà, mon écouteur était pas bien branché. Et donc, mi-dex de 26 à 27. Nord-ontarien, de la pluie, et 18. Nuageux Manitoba et en Saskatchewan, 23, et puis c'est mi-dex 28. Possibilité d'averse en Alberta, maximum 25. Du soleil, maximum 26 en Colombie-Britannique. Et là-bas, il fait beau. On va tout déménager là. Tout le monde est là-bas. Bon. C'est aujourd'hui donc une excellente journée à Canalem. Il y a beaucoup de personnes intéressantes qu'on aime beaucoup, des personnes lumineuses. Commençons avec nos chroniqueurs et chroniqueuses. Allô, il y a Monique qui est là, Monique Hiroac. Salut Monique.
Bonjour Denis Martin, comment allez-vous?
Ah, ça va bien. Je suis tellement content de vous réentendre. C'est un petit bout de temps qu'on n'a pas été ensemble toute la gang. Là, c'est le fun de vous entendre parce qu'il y a aussi Yvan Deslauriers qui est là.
Et bonjour, Denis Martin. Bonjour,
allô.
Monique.
Hey, on est tellement contents. Je m'ennuyais, là. Je suis content de vous entendre à nouveau. Puis je pense que nos auditeurs, auditrices sont très contents de vous entendre à nouveau. Allons-y avec toi, Yvan. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Je vous parle d'une personne qui... On a tous des choses dans lesquelles on excelle. Ça peut être dans l'activité physique, là. C'est de ça que je vais parler. Mais ça peut être dans plusieurs autres domaines. Et qu'est-ce qui arriverait si, à cause d'un accident, on devait repartir à zéro? Mm-hmm. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé à la personne dont je vais vous parler. Il s'appelle Michel Lefebvre, qui était déjà, lui, un coureur, un marcheur, quelqu'un qui... Il faisait des ultramarathons, là. C'est pas... Ouais. Il allait pas juste chercher son épicerie en marchant.
Ouais, c'est quand même quelque chose...
Et tout d'un coup, oui, c'est
non, tu le dis pas comme il faut. Du coup, il a eu un...
Oui, mais enfin, il y a eu un AVC.
Ouais.
Et là, sa vie a complètement basculé. Il a fallu qu'il réapprenne. Ah. Mais je vous raconte toute l'histoire tantôt.
On a hâte d'entendre ça. Monique, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Comme nous sommes de retour en ondes, il y a beaucoup de gens aussi qui retournent au bureau. C'est inévitable. Mais ce retour, parfois il y a des situations que l'on vit qui sont un peu difficiles. Par exemple, une décision qui a été prise, qui a été proposée, mettons, par Monique. Puis là, tout d'un coup, il y a des changements, mettons, organisationnels qui font que ma suggestion est rejetée, elle est écartée parce qu'il y en a une meilleure. Je me sens dans une situation un petit peu, je suis fâchée quoi, et je me sens désavouée. Mais ce refus d'adhérer à la décision collective, c'est problématique parce que ça peut mettre en péril, en fait, la cohésion du groupe. Et le professeur Jean Poitras, qui est professeur au HEC, il nous propose d'examiner un peu comment les primates réagissent. Peut-être qu'il y a là une partie de réponse intéressante.
Ah, on a hâte d'entendre ça. Et puis moi, de mon côté, je vais vous parler de rentrée culturelle aujourd'hui. Parce que ça donne comme ça, on fait des demandes d'entrevues, puis il y a deux entrevues sur du théâtre aujourd'hui à l'émission, parce que les deux sont confirmées pour aujourd'hui. J'ai aussi des personnes lumineuses à vous présenter. Ça fait du bien un jeudi comme ça. Edith Patnaud, qui est directrice artistique du théâtre Espace Go, qui va nous parler de cette prochaine saison à son théâtre, et qui va aussi nous donner un petit avant-goût de 24 pauses portraits qui ouvrent la saison chez Duceppe et dont elle fera la mise en scène aussi. Et on va recevoir Philippe Cyr, qui est co-directeur artistique et général du Théâtre Prospero. Puis évidemment, Dominique Tremblay s'en vient pour parler de parasport. Puis moi, je vais vous faire un petit tour dans l'histoire aujourd'hui avec l'éphéméride du jour. Imaginez qu'en 1940, c'est donc j'écoutais même un podcast là-dessus, un podcast, je me l'ai rendu comme les Français, une balado-diffusion sur l'assassinat de Léon Trotsky, qui était un des leaders de la révolution russe. Il a été assassiné à Mexico. C'est en 1940, en ce jour, et ben, c'est un événement qui marque la fin d'une figure clé et aussi un tournant dans l'histoire communiste soviétique. 1968, en Tchécoslovaquie, dans la nuit du 20 août, ben c'est l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie qui met fin au printemps de Prague, un mouvement de réforme politique donc, et sociale. Et ben, aujourd'hui, je vais vous parler de musique, tiens, c'est pas dans l'éphéméride du jour. Le titre « Alors on danse » de Stromae, issu de son album « Cheese », sorti en 2010, c'est quand même hein, 16 ans, a franchi le cap du milliard d'écoutes sur Spotify. Il n'y a pas beaucoup, je pense qu'il y a 1300 chansons qui se trouvent dans ce club prestigieux, le Billion Clubs, et c'est la deuxième chanson québécoise, francophone, pas québécoise, francophone. La première chanson francophone qui s'est retrouvée dans ce club des milliards, vous le savez, Patrick Watson, « Je te laisserai des mots ». Mais là, on va écouter Stromae.
Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit étude dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise de dix mondes, dix famines, dix tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y en a encore.
Donc, Stromae, hein, et alors on danse. Ben, dans l'actualité aujourd'hui, c'est incontournable. Je vais faire un petit résumé de cet article du Devoir. de ce matin, un brouillon d'entente commerciale entre le Canada et les États-Unis amené à la suspension jusqu'à samedi des nouveaux droits de douane américains sur 28 milliards de dollars de produits canadiens. Le président Donald Trump affirme que cet accord éliminera les droits de douane imposés par le Canada sur les produits agricoles et manufacturiers états-uniens. De son côté, le représentant états-unien au commerce évoque un accès complet au marché canadien, des engagements en sécurité économique et un alignement sur le commerce numérique, tout en mentionnant la relance du projet de l'oléoduc Keystone XL. Les décrets états-uniens prévoient toujours des taxes de 50 % sur certains produits canadiens à compter du 22 août si l'entente n'est pas finalisée. À Ottawa, le ministre Dominique Leblanc assure de son côté que le système de gestion de l'offre laitière reste protégé. Le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec ses homologues provinciaux pour discuter des détails du compromis. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, exige des clarifications supplémentaires avant de se prononcer. Elle rappelle que le retour de l'alcool états-unien dans les sociétés d'État, donc à la SAQ, demeure une décision exclusive du Québec, conditionnelle à l'obtention d'un accord équitable, et réitère que la protection de la gestion de l'offre et de la culture constitue des lignes rouges. Dans l'ensemble du pays, des surtaxes canadiennes sur les fromages états-uniens, des quotas de véhicules et le retrait de l'alcool états-unien des rayons provinciaux figurent parmi les points de litige soulevés par Washington. On va retourner tout de suite en musique parce que, ben, à cette date, à ce jour, en 1980, 46 ans, nous quittait Joe Dassin. Vous savez que c'était un chanteur états-unien. La langue française était sa deuxième langue. Et je me dis qu'aujourd'hui, ce serait peut-être agréable de l'entendre à nouveau.
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour.
Comme un peintre qui voit. Et si tu n'existais pas, Yvan, il faudrait te. Inventé, voilà.
Oh là 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 là!
Ah non, mais tu sais que je suis content de vous revoir à l'antenne, même si ça veut dire que c'est, bon, c'est la fin des vacances, ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire que ben, je m'ennuyais, fait que je suis content de vous voir là. Alors Yvan, je t'écoute, tu vas nous parler donc de cette histoire d'un coureur qui a dû réapprendre à marcher.
Oui, tout à fait. Et c'est un article qui a été proposé par Catherine Harvey-Pinard dans la presse du 17 août, donc du début de la semaine. On parle ici d'une victime d'un AVC, c'est le coureur qui a réappris à marcher. On parle de Michel Lefebvre, qui lui, pour lui, la date du 21 mars 2019. Puis notez cette date-là parce qu'on va parler de d'autres dates. Puis ça nous permet de se situer par rapport à sa récupération. Donc, Michel Lefebvre, il nous dit que le 21 mars 2019, c'est le jour où ça a pété. En prononçant ces mots, il pointe sa tête. C'est que ce jour-là, il a fait un AVC hémorragique. Et on va expliquer plus tard dans l'article en quoi consiste un AVC hémorragique. Donc, ce féru de course à pied qui courait plus de 100 km par semaine devait soudainement réapprendre à marcher. Alors, M. Lefebvre se trouvait chez lui, à l'étage, quand il a été assailli par une violente douleur à la tête. Tellement violente qu'il s'est mis à vomir encore et encore. Il nous dit « c'était comme un mal de tête extrême ». Quand il s'en rappelle plus de 6 ans plus tard. Sa conjointe, Isabelle Plante, connaît les signes de l'AVC. Elle lui demandait de parler, de sourire, ce qu'il était toujours capable de faire. Mais elle connaît son conjoint. La situation était anormale. Par instinct, elle l'a conduit jusqu'à l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval, où il a été pris en charge illico après un bref arrêt au triage. Il faisait un AVC hémorragique. Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, ce type d'AVC survient lorsqu'il y a rupture d'une artère dans le cerveau. Rapidement, M. Lefebvre a été transféré au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, où il a passé 5 jours aux soins intensifs. Affecté par la lumière, il portait des lunettes fumées en tout temps. Et chaque fois qu'une infirmière faisait une annonce au microphone, sa tête lui faisait mal et sa coordination était grandement affectée. Il dit « Je savais c'était quoi un nez, mais je ne le trouvais pas avec ma main. » Alors, même en me, puis là, il montre à la journaliste en pointant son index à son nez. Ça, pour lui, c'est maintenant facile, mais à ce moment-là, c'était une tâche impossible. Ce que le père de 4 enfants ignorait encore, c'est qu'il ne pouvait plus marcher. Il l'a découvert quand il a quitté les soins intensifs et a été placé au 13e étage, celui réservé aux patients qui se remettent d'un AVC. 2 spécialistes, dont une physiothérapeute, se sont présentés dans sa chambre. À ce moment-là, M. Lefebvre n'avait pas encore une seule fois essayer de se lever depuis le 21 mars. Alors, ils lui ont dit, on va se lever, mais c'est eux qui m'ont levé. Alors, M. Lefebvre s'interrompt dans son histoire parce que là, l'émotion le gagne. C'est sa conjointe qui prend le relais. Elle dit donc, la physiothérapeute lui a dit, M. Lefebvre, avancez le pied droit. Il a regardé ses pieds. La physiothérapeute a répété, « Monsieur Lefebvre, avancez le pied droit. » Il regardait ses pieds, mais c'est comme si le cerveau avait fait un reset, avait fait un redémarrage. Alors il dit, « J'entends ce que vous me dites, mais je ne sais juste plus comment dire à mon pied de bouger. » Ça doit être assez traumatisant.
Ben oui.
Ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que M. Lefebvre est un passionné de courses comme il s'en fait peu. Des marathons et des ultramarathons, il en a fait plusieurs dizaines depuis 2012. Il se préparait d'ailleurs à courir son troisième 100 km au Montreal Summit Quest en juin 2019. Vous vous souvenez que l'accident a eu lieu en mars 2019. Vous comprenez donc pourquoi M. Lefebvre est émotif au souvenir de cette journée. Pour lui, c'était un choc à l'état pur. Étape par étape, Michel Lefebvre a dû réapprendre à marcher. D'abord avec une marchette de son lit à la porte de sa chambre d'hôpital, puis avec une canne. Quand il a quitté l'hôpital au bout de 2 semaines, il avait réussi à marcher par lui-même sur l'étage et à monter les marches avec l'aide d'une physiothérapeute. À ce moment-là, M. Lefebvre ne pensait plus au marathon ou à la course. Son but, c'était de remarcher avec sa femme et ses enfants, tout simplement. De retour à la maison, le père de famille a poursuivi sa réadaptation. Et il l'a fait avec le sourire, insiste sa conjointe. On n'en doute même pas parce que s'il y a bien quelque chose qui saute aux yeux en rencontrant M. Lefebvre, c'est ce sourire qui ne quitte jamais son visage. Sa conjointe dit qu'il était de bonne humeur avec les enfants. Il a passé 9 mois dans la cour à entrer et sortir. Il se levait le matin en disant « Bon matin! » Ultimement, au bout d'un an, plusieurs séquelles se sont estompées et Michel Lefebvre s'est senti apte à courir. Quand en août 2020, donc à peu près un an et un quart après l'accident, l'organisation de la course des pompiers de Laval a invité ses participants à parcourir la distance de leur choix à domicile. On se souvient, c'était la COVID qui battait son plein. Notre protagoniste a décidé de se lancer. Il dit « Je m'étais inscrit, ça me donnait un but. Ça a été mon premier marathon officiel. » Quand on évoque le grand bien que cela a dû lui faire, le Lavallois esquisse encore un grand sourire. « Tu n'as pas idée », qu'il dit. Par ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, moi je me suis posé en lisant, puis peut-être les auditeurs se le demandent aussi, les nombreuses courses de longue distance de M. Lefebvre ne sont pas une cause de son AVC. Le neurologue du CHUM lui a plutôt confirmé que sa forme physique l'a sauvé. Autrement dit, l'ultramarathon m'a sauvé la vie, selon M. Lefebvre. Au cours des dernières années, Michel Lefebvre a commencé à se lancer des défis personnels. Il a fait le tour de l'île de Laval, ça c'est 80 km, puis celui de l'île de Montréal, ça c'est 130 km. Une autre fois, il a demandé à sa conjointe de le déposer au centre-ville de Trois-Rivières. Il est revenu chez lui, dans l'ouest de Laval, en jogging, une distance de 160 km, qui lui a pris 24 heures à parcourir. Le texte ne dit pas si c'est 24 heures continues ou pas, mais comme on connaît le bonhomme, ben c'est peut-être 24 heures continues. Cette année, l'athlète de 57 ans avait envie, entre guillemets, d'utiliser ses jambes pour une cause. Alors, sans surprise, il a choisi la fondation du CHUM afin de soutenir le projet Parcours Locomotive, qui contribue à améliorer la récupération et la qualité de vie des patients ayant subi un AVC. Il s'agit d'un parcours situé à même l'unité de neurologie que les patients suivent par des points verts au sol. Il est ponctué d'affiches de défis et d'exercices. M. Lefebvre a déjà amassé plus de 10 000 $ par l'entremise de sa campagne GoFundMe. Le défi qu'il s'est lancé consiste à courir 7 marathons en 7 jours entre le CHU de Québec et le CHUM à Montréal. Avec sa femme, il a préparé son parcours ils se rejoindront chaque soir dans des hôtels déjà ciblés. Et il dit qu'il a hâte avec un grand sourire. De toute évidence, il s'est préparé assidûment pour ce défi. Le chargé de projet pour un bureau d'architecte se rend au travail en REM. Ça, c'est quand le REM fonctionne.
Ah oui, parce qu'il y avait toute une panne hier. Hein?
Ouais. Oui, c'est ça. C'est à ça que je faisais référence. Ouais. Et il fait le trajet du retour, soit 30 km à la course. Et chaque fois, il adopte un chemin différent. Il visite ainsi, à sa façon, sa région. Il dit, c'est drôle, je suis comme un touriste. Entre vous et moi, un touriste qui court 30 km par jour, en tout cas, c'est pas mon idée du tourisme.
C'est du tourisme rapide, en tout cas.
Oui, mais quand, on a le temps de voir.
Ouais.
Ça, c'est sûr. En fin d'entrevue, M. Lefebvre dit espérer encourager ne serait-ce qu'une personne à bouger. C'est son désir ultime. Et quand on lui demande s'il est fier, il évoque une anecdote au sujet d'un de ses enfants, Charles, qui joue pour les Aigles de Trois-Rivières. Il dit « Pour la soirée des super-héros, les joueurs ont été invités à nommer leur super-héros préféré. » Et là, c'est sa conjointe qui prend le relais qui dit « Il y en a un qui a dit Batman, l'autre a dit Flash McQueen, mais Charles a dit « Moi, c'est mon papa. » Alors, en terminant, je vous fais une description du parcours que Michel Lefebvre va entreprendre très bientôt. Ça commence le 30 août. Il va partir du CHU de Québec, c'est-à-dire l'hôpital de l'Enfant Jésus, et il va passer par la rive sud. Donc, l'arrivée, c'est à Sainte-Croix cette journée-là. Après ça, ça va être de Sainte-Croix à Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Pierre-les-Béquets à Bécancour. Le 2 septembre, ça va être Bécancour à Baie-du-Fèvre. Je ne sais pas s'il y a des oies à ce moment-là. Là, c'est un endroit pour voir des oies à la fin des saisons. 3 septembre, Baie-du-Fèvre à Sorel-Tracy. Le 4 septembre, à Sorel-Tracy à Verchères. Et finalement, le 5 septembre, c'est Verchères au CHUM de Montréal. Vous pouvez aller visiter la page GoFundMe de Michel Lefebvre si vous voulez contribuer à sa collecte de financement. Donc, c'était l'histoire du coureur qui aurait appris à marcher, l'histoire de Michel Lefebvre qui nous explique comment il a fait pour se réadapter suite à un AVC assez sévère.
Mais merci pour cette histoire de courage et de résilience. On a besoin de ça de nos jours.
Oui.
Merci beaucoup, Yvan. À la semaine prochaine. Oui, merci. Bye.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je l'ai dit en début d'émission, je suis tellement content que mes chroniqueurs, mes chroniqueuses, ben c'est pas les miens, hein, c'est ceux de Canal M, je vais arrêter de dire ça, mais soit de retour. Je me suis tellement ennuyé, puis aujourd'hui il fait beau, puis là j'ai comme des rayons de soleil, puis j'en ai une autre, donc Monique Kerouac. Salut Monique!
Bonjour!
Puis je suis pas flagorneur, là, c'est tellement plus intéressant quand il y a des gens avec moi avec qui travailler cette première demi-heure d'émission ou cette première heure et quart d'émission, ça fait toujours du bien. Donc, on va aller à ta chronique.
Oui.
Moi, le titre que j'avais, tu vas me dire si je me trompe, pourquoi les singes gèrent mieux que les conflits?
Que nous, oui.
Ouais.
C'est bien le titre.
je disais ça, puis je me dis, OK, on va rigoler ce matin.
Oui, peut-être. Ben, écoute, je pense que c'est assez sérieux quand même, là.
Oui.
Vous allez voir. Alors, les conflits avec nos collègues, nos proches ou les membres de notre équipe peuvent rapidement bloquer la communication et faire monter les tensions et fragiliser les relations. Peut-être que vous avez déjà vécu ça dans votre vie professionnelle, Denis Martin.
Ah mon Dieu, oui. J'étais délégué syndical. Je peux raconter des choses, ouais, sur
d'accord,
les conflits.
Alors, vous allez sûrement être encore plus intéressé par ce que nous présente donc Jean Poitras, qui est professeur de gestion de conflits au HEC Montréal. Et l'article était publié dans La Conversation du 4 août dernier. Alors, une décision ou un compromis ne suffit pas à rétablir la coopération. Pour qu'une solution tienne, il faut aussi réparer le lien qui permettra aux personnes de continuer à avancer ensemble. Les primates nous offrent ici un miroir utile. Alors, voici ce que nous dit M. Poitras. Chez eux, la réparation du lien apparaît en général plus directe. Ils rétablissent le contact, s'apaisent mutuellement et restaurent leur relation. Des études en primatologie ont documenté ces comportements de réconciliation, montrant qu'ils revêtent une grande importance. Chez des espèces qui dépendent étroitement de la coopération pour survivre, le maintien de la cohésion du groupe s'avère vital. On peut imaginer tout de même que ce miroir a ses limites. Les singes ne composent pas avec des enjeux bureaucratiques, idéologiques ou juridiques, et ils connaissent eux aussi la domination, la rivalité et l'agression. Mais précisément parce que leurs affrontements sont moins chargés symboliquement, ils font ressortir les aspects que nous avons tendance à obscurcir. La réparation des liens sociaux occupe une place centrale. Certains travaux en psychologie sociale et en primatologie suggèrent que ces deux groupes se distinguent par le poids de l'ego. Chez les singes, la réconciliation contribue surtout à préserver des relations sociales précieuses dont dépendent l'accès aux ressources, les alliances et la protection du groupe. L'être humain ajoute une couche symbolique, une conception de soi favorable mais fragile, dont la remise en question peut nous nourrir l'agressivité. Les trois mécanismes qui suivent ont un point commun. Ils relèguent au second plan la dimension relationnelle du conflit sous l'effet du besoin de protéger l'ego. Je nomme donc ces trois mécanismes. La menace identitaire qui transforme le désaccord en jugement de notre valeur personnelle. L'invisibilisation des conflits qui prive le groupe d'occasions d'apprentissage collectif. Et finalement, la priorité accordée à la solution sur la relation qui fragilise le lien même quand le problème semble réglé. Chez l'être humain, lorsque l'ego se sent attaqué, on ne s'efforce pas seulement de régler le problème, on s'assure de ne pas avoir tort. On considère les opinions de l'autre comme des attaques personnelles et la discussion porte davantage sur la protection de l'identité que sur la compréhension. Dans ces conditions, bien, le lien se fragilise, la confiance s'érode et même une bonne solution peut être rejetée si elle fait perdre la face. C'est donc pas le conflit qui, en soi, qui menace la relation, mais bien le fait que l'ego s'en mêle. Tant que chacun cherche surtout à protéger son image, la recherche d'une solution demeure des plus fragiles. On doit cependant nuancer. L'importance accordée à la défense de sa propre image varie selon les orientations culturelles. Dans les contextes plus collectivistes, la gestion des conflits tend à accorder davantage de poids à la préservation de la face de l'autre et de la relation. Dans les contextes plus individualistes, la préoccupation pour sa propre face est généralement plus marquée. Le conflit peut alors plus facilement se déplacer du désaccord initial vers la défense de sa position, de son autonomie et surtout ou de son image personnelle. Il importe aussi, lorsque la tension monte, de se demander si l'interaction ressemble à une conversation ou à un jugement implicite au lieu d'argumenter davantage. Si nécessaire, on désamorce la menace à l'identité avant de revenir au fond. Chez les primates, les conflits et les rapprochements sont généralement visibles par le groupe, comme les protagonistes ont moins à protéger une image symbolique d'eux-mêmes, la réparation peut se faire ouvertement. Les autres membres observent alors ces comportements sociaux et apprennent par exposition répétée les façons d'interagir au sein du groupe, y compris comment les relations se réparent. Chez l'humain, c'est un peu différent, la peur de perdre la face pousse plutôt à éviter les désaccords ou à les régler en coulisses. Le groupe voit donc rarement comment un conflit peut être abordé de manière constructive. Il est ainsi privé de modèles communs et d'occasions d'apprentissage, alors qu'une discussion franche et encadrée des points de vue opposés peut justement favoriser une gestion plus constructive des conflits. Okay. Cette idée concerne surtout les conflits qui touchent l'ensemble du groupe, les rôles, les règles ou les façons de travailler. Les différences strictement interpersonnelles gagnent généralement à être abordées d'abord en privé, puisque la présence de témoins peut accentuer la défense de l'image. Mais l'enjeu n'est donc pas de rendre les querelles publiques, mais de rendre visibles des démarches collectives qui peuvent servir de modèle, ce qui n'est pas toujours évident dans la réalité, je crois.
Oui.
Chez les singes, les comportements de réconciliation contribuent directement au maintien de la cohésion du groupe, dont leur survie dépend étroitement. À l'inverse, l'être humain moderne, surtout en Occident, met souvent l'accent sur les issues au détriment des relations. Pourtant, il reste, lui aussi, avant tout, un être social. Quand les tensions relationnelles ne sont pas réparées, elles n'empêchent pas nécessairement le groupe de fonctionner. Mais cette performance de façade est trompeuse. La cohésion sociale agit comme un mécanisme de protection qui, une fois absent, prive le groupe de sa capacité à absorber les chocs et à limiter le chacun pour soi. C'est un angle mort fréquent. Les indicateurs de performance mesurent les résultats, mais pas la qualité des rapports qui les rendent possibles. Une équipe peut atteindre ses objectifs tout en s'affaiblissant si elle néglige les rapports. La dégradation des relations peut passer inaperçue si les résultats demeurent élevés, mais le succès finit par s'éroder à cause des tensions résiduelles. Traiter le conflit comme une menace au lien relationnel plutôt que comme un simple problème à résoudre change la nature de l'intervention. La question se révèle plus profonde que « avons-nous trouvé la bonne réponse ?» Elle se résume à « avons-nous réparé le lien pour que cette solution soit vraiment pérenne ?» On peut trancher un débat en une décision. On ne répare un lien qu'en y consacrant du temps. Et c'est précisément ce qui, dans un conflit, se règle le plus rarement. Alors, ça nous donne quand même des pistes, ouais. Je pense, de réflexion et d'action pour justement considérer cette dynamique de groupe et pas juste le conflit sous un angle individuel.
C'est intéressant de regarder le monde animal. Là, on parle des primates. Moi, ouais. Je remarque beaucoup, parce que j'ai un chien, puis c'est sûr, je remarque ses comportements. Et je trouve intéressant que, bon, il y a plein de chiens qui ne l'aiment pas dans le voisinage. Ils ne les aiment pas parce que, ben, c'est son voisinage. Ils n'ont pas besoin d'être là. Mais bon, ben, avec le temps, ils se tolèrent l'un l'autre.
Oui.
Puis, la blague que je faisais, ben, tu sais, ils se reniflent. Je ne dirais pas où, puis après ça, c'est réglé.
je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire.
Mais tu sais, moi, j'ai toujours à nous, on a de la rancœur, de la rancune, on est blessé. C'est correct, là, toutes ces émotions-là sont valables, elles sont valides, mais souvent, c'est que ça l'emporte sur la raison. Parce qu'un conflit, ça ne devrait pas exister tout le temps. Un conflit, c'est une occasion de trouver une solution.
Exactement. Je pense qu'il faut ressouligner la trop grande importance de notre ego dans toutes ces dynamiques-là. On ne pense qu'à soi et on ne pense pas à la dynamique de groupe. Et je trouvais très intéressant l'angle de performance, en fait. Un groupe peut être performant, mais pas sur le long terme à cause des conflits latents. Alors, je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça. On peut remercier M. Poitras.
Encore une fois, moi, je vais devoir réfléchir ce soir aussi après t'avoir écouté. Écoute, Monique, on va continuer. Tu as des brèves pour nous ce matin.
Oui, bien sûr. Il y a une capsule linguistique, si vous le désirez.
On y va. Oui, allons-y avec la première brève. Qu'est-ce qui rend les robots humains?
Oui, mon Dieu. Ben, ce sont leurs yeux.
C'est trop facile. Alors, je pensais que la réponse aurait été plus compliquée que ça.
Ben, je t'explique comment on en est venu à cette conclusion. Il y a deux nouvelles expériences qui viennent de le montrer. Et ça, cette expérience a été faite par un trio de chercheurs finlandais et allemands. Ils ont mis au point 48 images ultra réalistes d'humanoïdes de diverses formes et aspects. Puis, ils ont demandé à 100 personnes en ligne de leur attribuer des qualificatifs, soit empathique ou insensible, efficace ou idiot, alors que 200 autres devaient répondre à une série de questions. Par exemple, dans quelle mesure ce robot est-il capable de penser, de distinguer le bien et le mal, de faire l'expérience d'émotions comme la peur, le plaisir et les douleurs, et d'être conscient de soi ou du monde. Le résultat, la simple présence d'Dieu prédisposait les participants à leur prêter des sentiments humains. Et cette tendance à anthropomorphiser les robots pourrait, selon les chercheurs, faciliter à terme la spontanéité de nos interactions avec eux dans la vie réelle.
Il me reste une petite minute parce qu'on a une entrevue qui doit passer par la suite. Alors, allons-y peut-être avec « Faut-il terminer ses études » puis on regardera la capsule la semaine prochaine.
Bien sûr, avec plaisir. Ben, cette injonction, il faut terminer ses études, on le devine, hein? Mais cette injonction prend tout son sens grâce à une étude en conditions réelles. Les protagonistes involontaires sont 485 responsables des ressources humaines de grandes entreprises allemandes chargées d'évaluer 3 candidats fictifs ayant une majeure en affaires et dont les CV ont été élaborés par une équipe de chercheuses en économie. Conclusion, la probabilité de recevoir le candidat à un entretien est nettement supérieure, soit plus 6,6% si celui-ci a un niveau de maîtrise par rapport à un baccalauréat, mais nettement inférieure, moins 3,5% s'il a entamé la maîtrise sans l'achever. Les recruteurs associent cet abandon à un manque de persévérance et d'engagement. Donc, terminons nos études.
De maîtrise. Puis après ça, on fera le doctorat, ben, post-doctorat. Ouais. Ouais. Monique, merci beaucoup. C'était un plaisir de te réentendre. Puis on va faire ça à nouveau. On va récidiver la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Elle m'a dit, hey, oh, qu'est-ce que tu fais à soir? J'y ai dit, let's go, je pense te prendre en char. On peut-tu se dire la vérité? On peut-tu se dire les vraies affaires? Y'a une tension entre toi et moi. Y'aurait peut-être bien quelque chose à faire. J'ai montré une photo de toi à mon père puis à mon frère. Ils m'ont dit, Joe, qu'est-ce qui se passe? Arrange-toi pas pour la déplaire. Elle m'a dit, hey, oh, qu'est-ce que tu fais à soir? J'ai dit, let's go, je pense te prendre en charge. À soir, c'est moi qui te sors, je paye la tournée de château bord. Hey, oh, je pense te prendre ce soir. J'imagine déjà notre histoire. Coucher de soleil, des beaux décors. Je t'ai fait de la place dans mon tiroir. Parce qu'à soir, c'est ici que tu dors. Mais est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais à l'aise? Et si jamais je tombe amoureux, ça te causerait-tu un malaise? Je nous vois nous deux, je nous vois heureux, t'es chocolat, je suis la fraise. Y'a une tension à toi, et moi, y'aurait bien quelque chose à faire. Elle m'a dit, hey, oh, qu'est-ce que tu fais à soir? J'ai dit, let's go, je pense te prendre en charge. À soir, c'est moi qui le sors, je paye la tournée de château bord. Hey, oh, je pense te prendre ce soir. Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais à l'aise? Et si jamais je tombe amoureux, ça causerait-tu un malaise? Tu me vois les deux, je vous vois heureux, t'es chocolat, je suis la fraise. Y'a une tension entre toi et moi, y'aurait bien quelque chose à faire. Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais à l'aise? Et si jamais je tombe amoureux, ça causerait-tu un malaise? Tu me vois les deux, je vous vois heureux, t'es chocolat, je suis la fraise. Y'a une tension entre toi et moi, y'aurait bien quelque chose à faire. Hey, oh, qu'est-ce que tu fais à soir? J'y ai dit, let's go, je pense te prendre en char.
Ce soir, par Justin Roy.
Septembre s'en vient et avec lui, ben, c'est la rentrée culturelle. On a entrepris des entrevues récemment pour parler de ces rentrées. Puis aujourd'hui, ben, c'est au tour d'Espace Go et de sa directrice artistique, Edith Patneau, de nous parler. Allô, Edith!
Bonjour!
Alors, enfin, cette nouvelle saison s'amorce, en fait, sous peu, puis propose une accessibilité accrue avec la formule d'abonnement unique. C'est pas la vision artistique que tu as souhaité donner cette année à la programmation 26-27?
Ben, en fait, moi, j'aime ça vraiment travailler à partir des imaginaires des créatrices avec qui on travaille. Fait que je tente de ne pas imposer d'emblée une ligne éditoriale, mais de plutôt voir qu'est-ce qui émerge des créatrices, c'est quoi leur besoin de dire, parce que je veux pas les uniformiser. Je veux pas dire, OK, ce que les femmes créatrices ont besoin de dire aujourd'hui, c'est ça, selon moi. Mais quand je construis la saison, puis que je vois les projets qui viennent à moi, puis qui m'excitent, puis qu'on décide de mettre de l'avant, de produire ou d'accueillir, ben là, il y a comme quelque chose qui finit par se dégager, toujours quand même, en tout cas du moins de mon point de vue, tu sais, à ma lecture. Fait que pour moi, c'est une saison où il y a vraiment des reprises de pouvoir.
Ah.
On est vraiment, on rencontre des femmes qui reprennent leur propre récit, leur propre autonomie, qui se libèrent de certaines façons, mais de façon très différente d'une production à l'autre, avec des énergies assez joyeuses souvent, puis des fois très sombres, mais on a vraiment un parcours là, très coloré là, cette saison.
Et puis, j'ai oublié de dire, Edith, parce que je pense que c'est important pour ceux et celles qui ne le savent pas, le théâtre Espace Go, c'est un théâtre. Est-ce qu'on peut dire un théâtre où les femmes sont mises de l'avant ou ce sont les femmes qui dirigent le théâtre?
Où les femmes sont mises de l'avant, mais oui, ce sont aussi des femmes qui dirigent le théâtre.
C'est ça.
Ça va un peu de pair, je te dirais. Bien, c'est une institution qui a été fondée par Ginette Noiseux, qui a été là pendant 40 ans. J'ai le privilège de lui avoir succédé il y a 2 ou 3 ans. Et puis, avec ma collègue là, à la co-direction générale, Maïeda Rinchospé, on est donc évidemment une équipe de femmes. Mais c'est en effet un théâtre qui choisit de faire rayonner les paroles de femmes, parce que, bon, historiquement, les femmes font partie, malheureusement, malgré le fait qu'elles soient quand même 50% de la population, d'une population qui est invisibilisée.
Et marginalisée, oui.
Et marginalisée. Mm-hmm. Et donc, nous, notre mission, c'est de redonner de la lumière, puis un grand plateau, puis des conditions pour que ces femmes-là, créatrices, brillantes, puissent vraiment avancer dans la recherche, puis permettre à la pratique de se développer aussi.
C'est
ce qui fait qu'à la fois, à Go, on développe les talents, le potentiel, les imaginaires de nos créatrices d'ici, mais on travaille aussi sur le front du développement de la pratique du théâtre contemporain. Fait que voilà, c'est là où on se situe.
Oui, je l'ai mentionné en début de question, puis je vais revenir là-dessus. On sait que, bon, ça va pas bien dans au niveau économique. Hein, les gens ont moins d'argent, puis j'ai vu que vous avez réussi à maintenir un tarif quand même assez bas. Puis là, vous offrez aussi un abonnement, une formule d'abonnement.
Oui.
Ça aussi, ça fait partie de la vision du théâtre de se démocratiser?
Absolument, parce que nous, on a la chance extraordinaire d'avoir un lieu fabuleux. Hein,
notre c'est très beau, en effet. Oui,
oui, c'est un espace exceptionnel pour créer, parce que c'est une salle qui est un grand plateau, donc il y a la taille du TNM là, au niveau du plateau pour la création. Mais on reste dans une dimension qui est plus intime quand même dans la rencontre publique et artiste, parce qu'on reçoit à peu près 250 personnes nous dans la salle. Fait que la salle a vraiment été conçue justement pour se trouver exactement là à cette frontière, pour que les femmes puissent imaginer des spectacles d'envergure, mais dans un rapport qui préserve une forme d'intimité avec le public. Puis c'est une salle qui est entièrement modulable, fait que ça leur permet d'être vraiment, tu sais, très créatives dans la disposition de l'espace, dans la façon d'imaginer une expérience théâtrale avec les publics. Mais donc, on a cet outil-là exceptionnel, puis la réalité, c'est que ça coûte cher produire des spectacles dans cet espace-là. Mais malgré ça, pour nous, c'est capital, comme en plus on présente le spectacle de populations qui ont été marginalisées historiquement, puis on réfléchit aussi dans une perspective intersectionnelle, tu sais, de toucher à différentes luttes, puis de les inviter chez nous aussi. C'est vraiment important pour nous que le public se sente accueilli, invité, puis que ce soit accessible pour différentes personnes qui viennent de différents parcours de venir chez nous. Ce qui fait que notre tarif de base est demeuré très bas quand même si on se compare à d'autres théâtres. Mais on maintient en plus un abonnement où les gens peuvent choisir 3 spectacles, un minimum de 3 spectacles dans la programmation. Ils peuvent prendre les 5 s'ils le souhaitent. Et puis, chaque spectacle est à 26 $, ce qui fait que pour un petit peu plus que 75 $, ben on est abonné à Espace Go puis on voit 3 spectacles pendant la saison, ce qui est quand même assez fort du point de vue de l'accessibilité financière, je vous dirais. Puis on a plein d'autres formes de tarifs. On a ce qu'on appelle les Vendredis Go, où les moins de 30 ans peuvent voir des spectacles pour seulement 20 $. On a des tarifs de groupe. On a plein de solutions situations. On a un tarif familial où c'est possible pour un adulte de venir pour à 35 $ puis d'avoir un billet à 15 $ pour son adolescent, par exemple, pour développer aussi la curiosité de nouveaux publics.
Je te coupe parce qu'on va aller à la programmation, mais on voit vraiment donc que l'effort est fait pour s'assurer que ça soit accessible. Puis je le dis, pour Canal M, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je le souligne. Je commence avec une des pièces qui va être présentée. En fait, mm-hmm. c'est la reprise de Ciseaux avec la belle gang de Pleurer dans la douche.
Oui, on les adore.
Ah oui, alors c'est quoi qui a motivé le retour ou en fait des supplémentaires, si on peut dire?
Bien, en fait, la chose va très, très bien. D'ailleurs, on vient justement d'annoncer deux supplémentaires par rapport aux dates qui étaient annoncées là, au lendemain.
Ah oui.
C'est que moi, depuis que je suis arrivée, j'ai quand même eu le désir de travailler. Bien sûr, on travaille beaucoup sur des nouvelles créations. C'est quand même ça qui est la majorité de ce qu'on présente. Mais pour moi, c'est important de reconnaître qu'on est en train de bâtir tranquillement quelque chose comme un matrimoine aussi. T'sais. On parle de plus en plus, ça demeure ténu, là, mais de patrimoine du point de vue du théâtre québécois, de répertoire. On commence à parler d'un répertoire québécois, mais les femmes sont encore souvent exclues de ces conversations-là parce que elles ont été très peu valorisées là, dans le début de l'histoire théâtrale québécoise. Ce qui fait que moi, je tiens à ce que des spectacles que de mon point de vue, sont forts dans la pratique des femmes artistes au Québec puissent avoir cette occasion d'être revues par un nouveau public, puis d'être célébrées en quelque sorte comme étant des pièces fondatrices de la dramaturgie québécoise. Et donc, pour moi, Ciseaux, qui a été créé il y a quelques années déjà, puis qui a déjà tourné, qui a été repris
en
à
Europe,
Montréal, mais
oui.
aussi en région, un peu partout, oui, ça s'est promené, ça revient, mais c'est un show tellement important parce que, oui, retrace l'histoire des luttes lesbiennes à Montréal, mais c'est fait, c'est fait avec une telle joie, puis les bras ouverts, puis en invitant les gens dans un party. Ce spectacle-là, peu importe où il s'est trouvé là sur la planète, finit toujours par électriser son public. C'est vraiment un spectacle qui donne envie.
Ça finit encore avec de la bière à la fin, là, parce que je me rappelle quand j'ai vu la présentation la première fois, on allait sur scène prendre un verre avec les filles.
Bon, ça, je suis pas prête à vous garantir que ça va arriver, parce qu'à Go, on n'a pas tout à fait les permis de
faire bon,
dans la
c'est bien correct.
C'est vraiment une affaire super technique, mais il va y avoir de la joie.
Il va y avoir de la joie, je suis certain. Edith, moi, j'ai vu une affiche, ça a attiré mon attention. Te voilà enfin Britney Spears.
Ah oui.
Ça, c'est le premier show de la saison.
C'est le premier show. Fait que ça ouvre la saison vraiment avec beaucoup d'éclat. Puis ce qui est très attirant avec l'affiche, c'est qu'on se dit, mais coudonc, est-ce que Britney Spears est à Espace Go? Que se passe-t-il? Mais c'est vraiment Sophie Cadieux qui incarne, non pas Britney Spears. C'est pas un biopic, puis c'est pas une pièce qui retrace l'histoire de Britney Spears, mais Marie-Hélène Larose-Truchon, l'autrice, a choisi d'utiliser la figure vraiment iconique de Britney Spears dans tout son parcours de vie, là, tu sais, comme exemple, je dirais, de femme qui tente par tous les moyens de s'extirper là, tu sais, des mains du patriarcat. Fait que c'est vraiment cet exemple de cette femme qui tente d'échapper à cette culture du divertissement de masse, puis à l'obligation de performer, puis de faire spectacle. Et donc, c'est une série de tableaux, je vous dirais, un peu comme quand on voit un show rock, on suit une série de pièces musicales. Là, tu sais, il y a vraiment une forme dramaturgique, une structure qui s'apparente, où on voit Britney s'échapper de ce qu'on appelle l'homme en noir dans différents contextes. Fait qu'elle peut aussi bien être la Vierge Marie que Marilyn, qu'une femme monoparentale qui travaille dans un diner. Fait que c'est toute une série comme ça de vignettes, je dirais, qui sont très acide, très drôle. Et puis, c'est Sébastien David qui fait la mise en scène. Il a invité aussi il y a une troupe de danseuses qui vient aussi incarner des chorégraphies de Britney à travers ça. Fait qu'il y a quelque chose de très show rock, très événementiel. Mais en même temps, là, ça vient d'une colère extraordinaire qui s'est transformée en une écriture vraiment très drôle, très acide. C'est un vrai coup de cœur. Quand j'ai lu le texte, là, pour moi, c'était comme un... j'ai pas le mot en français, mais un page-turner. J'étais
oui.
là,
sans faire... Ah oui, on n'était pas capable de décrocher.
Ben non, c'est ça que ça exprimait. C'est comme si ça venait me chercher avec un crochet puis que je comprenais exactement l'état dans lequel l'autrice l'avait écrit.
Ah,
puis
ouais.
là, on a besoin de ça. C'est énergisant puis en même temps, c'est grinçant. Ça fait mal à des bons endroits. Là,
on n'aura pas le temps de parler de toutes les autres pièces de théâtre,
mais, non,
mais on fera une autre entrevue, certain. Mais je vais même prendre une petite minute parce que présentement, tu es en répétition. Parce
oui.
que tu fais aussi une mise en scène chez Duceppe. Puis je trouve que c'est
oui.
important d'en parler. En fait, on reprend en 24 pauses portrait de Serge Boucher.
Exactement. Ben c'est drôle, tu vois, tout à l'heure, je parlais de matrimoine. Et puis pour moi, qu'on reprenne 24 pauses, c'est vraiment un travail sur le patrimoine théâtral d'ici. Tu sais, c'est une pièce qui a été écrite il y a 25 ans. Puis au moment où elle a été écrite, c'était une bombe parce qu'on n'avait jamais vu ça, ce type d'écriture-là, de la banalité, je dirais, où on est vraiment dans le quotidien, où on n'est pas dans le spectaculaire du tout, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. Mais quand même, on est vraiment dans une écriture qui défiait tous les codes de la dramaturgie au moment où ça a été écrit, puis de retrouver ce texte-là aujourd'hui, de le célébrer, puis c'est plein de tendresse. Tu sais, moi, il y a vraiment... Tu sais, je l'ai lu, puis je ne l'ai pas vu, moi, il y a 25 ans. Et puis quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est ma famille. Tu sais, genre, je dois le monter, je me reconnais dans ce texte-là. Tu sais, c'est mes racines, il y a quelque chose qui est vraiment dans le cœur. Et puis là, ben, j'ai une gang d'acteurs sensationnels qui travaillent tellement bien avec des conceptrices et des concepteurs qui ont imaginé à la fois un espace qui est très sobre, mais qui tout d'un coup, par certains moments, révèle des bulles, tu sais, magiques, extraordinaires. Fait qu'on est dans l'excitation. Là, on est à 2 semaines de la première, puis on voit les choses advenir. Fait que c'est un vrai privilège. C'est comme du Tchekhov québécois. C'est d'une grande, grande richesse.
Ben, en tout cas, moi, je veux dire qu'on est très privilégiés d'avoir pu te parler ce matin parce que je sais que tu es très occupé. Puis on va certainement te réinviter pour parler de tout le reste de la programmation. Merci beaucoup,
Edith.
Plaisir.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. On vous revient après la pause avec les parasports et on va parler de la fête de la rentrée au festival. Ben, je sais pas, je dis festival au Théâtre Prospero. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
J'ai passé toute ma vie à vouloir être celle qu'on choisit. J'ai rêvé des plus grandes scènes, celles où j'allais voir mes idoles. Et aujourd'hui, c'est réussi, c'est mon téléphone qui sonne. On me dit, c'est à ton tour de faire briller le jour. Je rêve encore de ce qui m'arrive, plus besoin de m'endormir. Le sort, mes rêves se réalisent, j'arrive à foutre en l'air tout ce qui m'éloignait du but. Ce que je voulais, c'était une carrière, peu importe où j'étais rendue. J'ai travaillé jour après jour, j'ai passé par tous les détours, pour qu'enfin on me dise, c'est à ton tour de faire briller le jour. Je rêve encore tout ce qui m'arrive, plus besoin de m'endormir. Le sort, mes rêves se réalisent, j'arrive à
tout ce qui m'arrive par Catherine Sans Regret.
Parasport, maintenant, avec Dominique Tremblay. Allô, Dominique.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Très bien, très bien. Alors, on va parler tout d'abord de rugby, championnat mondial de rugby en fauteuil roulant.
Oui, c'est ça. La compétition se déroule présentement au Brésil, à Sao Paulo. Sao Paulo. Et aujourd'hui, parce qu'il y avait un match passionnant pour les Canadiens qui rencontraient la Hollande. Et le match vient tout juste de se terminer. Le Canada a gagné 44-42. C'était un match très, très important pour le Canada puisqu'ils avaient perdu leurs trois premiers matchs du tournoi à la ronde. Il y a 6 équipes. En fait, il y a 12 équipes au total, disant 2 poules de 6. Le Canada est dans une poule avec l'Australie et les États-Unis, qui sont 2 des meilleures équipes au monde. Il y avait aussi le Brésil, et ça, c'est important. Le pays hôte a battu le Canada hier par 1 seul point. Donc, le match contre la Hollande ce matin était très, très, très important si le Canada espère participer au moins au quart de finale. Donc, il reste un match à faire dans le tournoi à la ronde. Là, plus tard aujourd'hui, le Canada va rencontrer la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande n'a pas gagné de match encore lors de la compétition. Donc, ce serait probablement un peu plus facile comme partie pour le Canada. Donc, ça va être une triple égalité pour décider de la 3e, 4e et 5e place entre la Hollande et le Brésil et le Canada. Donc, on se croise les doigts. Je vous rappelle que le Canada a, depuis peut-être 4 ans, sont en reconstruction, sont une nouvelle équipe cette année, surtout nouvel entraîneur aussi. Donc, on s'attendait à avoir des résultats un peu plus difficiles, quoique la défaite contre le Brésil a été un peu surprenante, à mes yeux du moins. Donc, ça va devoir être intéressant comme le reste du tournoi va se dérouler. Les finales vont avoir lieu samedi et dimanche, et on va se croiser les doigts pour que ça finisse bien pour le Canada, puisque ça a été un peu plus compliqué au début du tournoi.
Ah, mais je pense qu'on est les meilleurs, puis je suis pas du tout chauvin quand je dis ça.
pas du tout. Mais bon, on devrait peut-être regarder du côté aussi, bon, des États-Unis et de l'Australie, et dans l'autre pôle, il y a la France et le Japon. Ils ne sont pas piqués des verres non plus. Ça fait des matchs de rugby très passionnants. Les matchs seront disponibles en live stream là, sur le site de Rugby en fauteuil roulant Canada. On peut voir ça, donc c'est assez passionnant.
Un autre sport qui se pratique, je crois, en fauteuil roulant encore, c'est le basketball. Puis ça aussi, c'est les championnats mondiaux.
Et ce tournoi-là va avoir lieu à Ottawa du 9 au 19 septembre, donc dans à peu près 2-3 semaines. Ça va être toute qu'une compétition. Il y aura 16 équipes masculines qui se retrouvent à cette compétition et 12 équipes du côté féminin, dont le Canada. C'est le plus grosse compétition par équipe jamais organisée par le Canada. Le Canada a déjà organisé le championnat du monde de basketball ou encore les championnats du monde de rugby dans les années 90, début des années 2000. Donc là, vraiment, ça va être une grosse, grosse, grosse compétition. Ça va jouer au Parc Lansdowne à Ottawa où il y a un aréna là. Ça va être très passionnant. Il va y avoir un deuxième site aussi à l'Université Carleton. Les gens peuvent acheter des billets et assister aux rencontres. Des équipes canadiennes vont être à surveiller puisque les 2 équipes avaient terminé en 4e place lors des Jeux paralympiques de Paris. Donc, ça devrait être des bons performances pour l'équipe canadienne. On se croise les doigts. Je veux aussi mentionner que 3 joueurs canadiens qui ont signé avec des équipes européennes pour la saison qui va débuter au mois d'octobre, ils vont aller jouer professionnellement en Europe, sont payés un petit montant et aussi leurs dépenses sont payées par leur équipe. Donc, c'est le fun de voir que certains athlètes en fauteuil roulant peuvent gagner leur vie en jouant à leur sport préféré.
Là, je ne sais pas si on peut remettre une médaille à ce gars-là, mais il paraît que tu t'en vas en Corée. Il me semble que tu voyages beaucoup, là. Peut-être que la médaille du gars qui voyage le plus.
Ouais, pas pire. Cet été, ça a été assez divertissant comme voyage. Là, ça risque d'être mon dernier voyage de l'année, là, du moins sur mon calendrier. C'est les championnats du monde de boccia qui vont s'y dérouler. Ça va être intéressant. Évidemment, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. 46 pays qui vont être là. Évidemment, le Canada va y être dans la catégorie BC4 et un athlète BC1 de l'Ontario. BC4, on parle de Julianne Chiabanou et Alison Levine. Sont potentiellement possible pour eux de gagner des médailles dans la catégorie double BC4 et peut-être aussi en individuel, on verra. Ça va être des compétitions qui sont quand même assez serrées. Je prends l'avion à partir de dimanche et si tout va bien, là, j'aurai la chance de vous parler à partir de la Corée la semaine prochaine en regardant les droits croisés. Là, il y a quand même 14 heures de décalage horaire, donc ça pourrait être intéressant.
Oui, ben, en tout cas, on va te réveiller, je pense. Parce qu'on veut ce privilège-là de t'avoir en direct de la Corée la semaine prochaine, Dominique. Bon voyage, merci beaucoup.
Merci, bye-bye.
Bye-bye.
On déplace de l'air. On se dit des choses aiguisées. On prend les chemins de travers. On se blesse souvent, on se surprend à recommencer. J'arrive comme un orage dans la tempête. Je n'ai plus la force de me défendre. On n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre.
On n'arrête pas,
on n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre pour rien. C'est chacun pour soi. Je m'ennuie du temps où l'eau était calme. J'arrive comme
Adriane Cassidy, on n'arrête pas. Light of Birdie, Oliver Jones avec José Edans.
Ah, et puis on est toujours dans cette rentrée culturelle. Hein? C'est septembre qui s'en vient. Je sais que ça veut dire que les vacances sont terminées, mais c'est la rentrée, puis la rentrée, c'est le fun aussi. Alors, c'est la rentrée culturelle. On a parlé tout à l'heure au théâtre, du théâtre Espace Go avec Edith Patnaud. Maintenant, c'est Philippe Cyr, qui est co-directeur artistique et général, c'est ça, du théâtre Prospero. Allô, comment ça va?
Bien, merci de me recevoir.
Ben, c'était un plaisir. Alors, j'y étais pas hier parce que on est toujours un peu dans le jus là, quand on anime l'émission du matin, puis des fois le soir, je sors moins parce que je suis fatigué. Mais c'était hier le lancement de la programmation.
Absolument.
C'est toujours un bel événement. C'était comment?
Ah, on a eu une belle soirée. C'était plein de monde. On a même manqué de sandwich tellement qu'il y avait des gens. C'était absolument formidable.
J'aurais pas mangé, finalement. Bon, alors parlons de cette nouvelle saison, Abattre les murs. Pourquoi ce thème?
Bien, parce que cette année est une saison absolument particulière puisqu'on va rénover le théâtre.
Oui.
C'est vraiment au sens propre comme au sens figuré, ce thème-là, abattre les murs. Donc, dès novembre, on fait une grande rénovation où on met à jour les équipements du théâtre, mais aussi où on modifie un peu les espaces d'accueil. C'est-à-dire qu'on amène le bar au niveau de la rue, en bas, au rez-de-chaussée. Et comme ça, on va pouvoir ouvrir un café complètement ouvert sur la rue pour les gens en tout temps. Donc, on souhaite vraiment créer un lieu très, très ouvert. Et puis, bien, ça se reflète aussi dans la programmation, dans les choix qu'on fait, où on aborde des questions très importantes. Je dirais pas au goût du jour, mais des préoccupations politiques, des préoccupations d'identité aussi qu'on amène sur scène. Je pense à ces regards amoureux qui traitent de chemsex, je pense aux suppliantes qui traitent de la question des migrants. Abattre les murs dans plusieurs sens.
Toujours trouver la façon d'utiliser la situation dans laquelle on se trouve, parce que c'est vrai qu'il y aura des gros travaux, puis d'utiliser ça aussi pour un peu mettre une espèce de ligne pour décrire c'est quoi la programmation. C'est une bonne idée.
Ben absolument. Puis les choses se font un peu naturellement comme ça, au sens où on choisit les projets, mais nous, on est tellement plongés dans notre quotidien, nos préoccupations, qu'on finit par, tomber sur des projets qui tombent en phase aussi avec ce qu'on est en train de faire.
Ah là, je vais sortir une grande vérité. Tout est dans tout.
Exact.
Bon, justement, j'aimerais ça peut-être aller tout de suite sur ce projet, puis on n'a pas eu la chance d'en parler ici. Le bâtiment s'apprête à subir une revitalisation, 5,8 millions de dollars, c'est de l'argent, dès novembre. Alors, c'est quoi les grands changements? On vient de mentionner qu'on va descendre le bar au niveau de la rue, mais c'est quoi les grands changements?
Exactement. Donc, on déplace l'entrée principale, on va rentrer davantage sur le côté du bâtiment, puis là, la vitrine va être grande ouverte, on va pouvoir ouvrir les fenêtres sur le trottoir, prendre un café là, avoir un espace très vivant. Vous savez, dans le théâtre, il peut y avoir tellement de gens qui travaillent en même temps, mais de la façon dont il est configuré actuellement, on voit pas les gens qui y sont, on voit pas la grande vitalité de ce lieu. Il peut y avoir des gens dans la salle de répétition, dans les bureaux, dans la salle intime, dans la salle principale. Le bar peut être plein, puis au niveau de la rue, on voit pas. Ce qu'on souhaite, c'est rendre ce café-bar-là vivant, visible et ouvert à tous les gens qui passent. Donc, vraiment, on souhaite créer un lieu très vivant. Et sinon, dans ce montant-là, il y a aussi beaucoup d'invisibles. Alors, des choses vraiment moins sexy qu'un café ouvert sur la rue.
Mais qui était fondamental, je pense que c'était la raison principale de ces travaux-là.
C'est absolument la raison principale, mais bon, refaire un toit, refaire les systèmes d'incendie, refaire de l'électricité, de la tuyauterie, la ventilation, des trucs comme ça, c'est un bâtiment qui n'a pas été touché depuis 1994. Donc, cette mise à niveau, elle est urgente, sinon les activités sont en danger. Donc, vraiment, l'essentiel de l'argent va de ce côté-là aussi.
Vous avez reçu du financement du gouvernement du Québec, puis, mais il faut quand même aller chercher de l'argent vous-même. Il y a une campagne de financement.
Absolument. Donc, on a reçu de l'argent du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada aussi, et il y a une campagne de financement importante. Donc, notre objectif de financement, c'est 1 million de dollars. C'est pas rien. On essaie d'atteindre cet objectif-là sur 2 ans. On va avoir besoin des gens, on va avoir besoin de la communauté. Puis d'ailleurs, hier soir, on annonçait un projet vraiment chouette, un des premiers gestes qu'on fait dans le cadre de cette campagne de financement qui s'appelle « Nous sommes des milliers ». On a invité nos amis de la firme de design Daily Tous les jours. Alors, Daily Tous les jours, c'est les gens qui ont conçu les balançoires musicales dans le quartier des spectacles. Alors, on les a invités à créer une œuvre qui est à venir. Là. Elle n'est pas conceptualisée, l'œuvre. Alors, on les a invités à venir imaginer une œuvre avec nous à partir des noms de tous les donateurs. Donc, les donateurs sont invités à participer à une œuvre qui va être à concevoir et qui va être présenté dans les espaces du Prospero. Donc, est-ce que ça va être dans la nouvelle cage d'escalier? Est-ce que ça va être dans le bar lui-même? Est-ce que ça va être dans les salles de bain? Que sais-je? On ne le sait pas encore, mais on invite les gens à inscrire leur nom dans l'histoire du Prospero.
Alors, parlons de cette programmation. Ça va être un petit peu plus condensé parce qu'on doit, on va devoir aussi vivre avec les travaux qui vont peut-être faire en sorte qu'il y aura des moments où on ne pourra pas utiliser la scène. Mais vous ouvrez avec la reprise de ces regards amoureux de garçons altérés. Je pense que c'est un texte assez... moi, je dirais que c'est un texte coup de pied. Hein? C'est dur, mais ça dit ce que ça a à dire. Vous, donc, que vous mettez en scène... comment on explique l'attachement du public pour qu'on le présente encore une fois?
Bien, on l'a présenté dans des petites jauges. Hein.
Le spectacle, ah oui, c'est vrai, la première fois, oui. Oui,
le spectacle, on l'a créé dans la salle intime, dans une salle de 45 personnes. Donc, on a fait une grande série de représentations, mais au final, peu de gens l'ont vu. Et là, on agrandit un peu la jauge. Donc, bon, la jauge est de 90 personnes, ça reste très peu. Puis là, on présente à nouveau 15 représentations. On avait fait 4 représentations au FTA également, ouais, à la dernière édition. Mais visiblement, les gens souhaitent voir le spectacle encore. Puis c'est un spectacle qui touche vraiment les gens. Il est question de dépendance, hein? Puis ouais, la dépendance, ben, ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit nous personnellement ou que ce soit dans nos familles, chez nos amis. Tout le monde a à faire face dans sa vie à des enjeux de dépendance, quels qu'ils soient. On peut parler de dépendance à la consommation, à la sexualité, une dépendance amoureuse. Ça prend de multiples visages. C'est multiforme, la dépendance. Mais le texte d'Éric est tellement bien écrit qui peut... tout le monde peut comprendre, ouais, comment cette pensée de liée à la dépendance peut se déployer ou en tout cas peut s'incruster de manière complexe dans notre psyché.
Puis même si ça se passe dans un sauna avec des personnes des communautés queer,
absolument,
ça dépasse ça parce qu'on se rend compte que la dépendance du personnage va au-delà de son orientation sexuelle. Voilà.
Bien, ça dépasse ça, puis en même temps, ça visibilise, oui, des enjeux pour la communauté qui ne sont pas visibilisés.
Tout à fait, ça fait les deux. Hein?
Exact, ça fait, oui, les deux, puis c'est ça que j'aime de ce projet et de ce texte.
Je vais aller dans la programmation qui continue. Bon, il y a Sophie El Assad qui réinterprète Les suppliantes d'Échille.
Ah ben oui, alors là, cette saison, on donne dans le théâtre grec, ça arrive très peu, ça arrive très peu au Prospero, puis on est très content de le faire parce que la pièce d'Échille continue d'être extrêmement pertinente 2500 ans plus tard. Il est question de migration, d'accueil, de réfugiés dans cette pièce-là. Le scénario, en fait, le résumé de l'action est très, très simple. Hein. C'est un groupe de migrants, migrantes qui arrivent sur un territoire nouveau et ces personnes demandent l'asile. Et le roi les questionne, dialogue, et tout le long de la pièce, on se demande si le roi va leur accorder l'asile. C'est pas plus compliqué que ça. Puis en même temps, on peut deviner à quel point les questions sont complexes sur l'accueil, le racisme, l'identité. Et là, Sophie El-Assad a réuni un groupe d'interprètes absolument formidables. Ils vont être 7 sur scène, ils sont de tout horizon. Et Sophie, c'est une conceptrice de costumes. Hein? Donc, vous pouvez imaginer que dans une partition simple comme ça, il y a beaucoup de choses à raconter visuellement. Donc, Sophie est en train de travailler une partition très, très visuelle où le costume prend beaucoup d'importance et va pouvoir éclairer ou en tout cas, je dirais, complexifier la partition d'Échille qui date de 2500 ans.
Quand même. C'est quand même surprenant. Puis, en fait, hein, encore une fois, je vais sortir une vérité de la palisse. Hein, l'histoire se répète.
L'histoire se répète, oui. Et malheureusement, on semble avoir une très grande difficulté à la changer, l'histoire.
Ah, la mémoire aussi. Ah, ouais. J'en sors une autre qui est une faculté qui oublie. J'arrête ça, là, parce que là, je vais aller me faire soigner si ça continue. J'avais une autre pièce qui a retenu mon attention, puis il y en a plusieurs, mais on parle aussi de présenter l'habitude des ruines. Moi, ça m'a interpellé de Marie-Hélène Voyer, c'est son essai, et c'est Jérémy Niel qui fait ça.
Absolument. Donc, l'habitude des ruines, ça va être l'adaptation du texte de Marie-Hélène Voyer qui s'appelle « L'habitude des ruines ou le sacre de la laideur et de l'oubli au Québec ». Ça, c'est le titre complet de l'essai.
Oui, c'est vrai.
C'est très intéressant parce que, d'une manière très poétique, elle déploie un essai où elle regarde le sort qu'on fait subir à notre patrimoine. Et notre patrimoine bâti, entre autres, notre patrimoine naturel aussi, dans les paysages, partout au Québec, où où, je dirais, elle dénonce d'une certaine façon le manque de soins qu'on apporte à tout ça. Bon, vous voyez, on a de la suite logique dans les idées.
Ben oui.
L'habitude des ruines en plein cœur d'une saison où on rénove le théâtre. Eh bien là, on n'aura pas notre salle pour présenter ce projet-là. Donc, on va accueillir les gens avec la compagnie Pétrus, qui est la compagnie de Jérémy Niel. On va accueillir les spectateurs à la Cité des Hospitalières. Tout ça, c'est tout près du Mont-Royal.
Oui, oui.
C'est un lieu absolument formidable. C'est beau, c'est préservé. C'est un lieu complètement historique. Donc, vous voyez qu'on a de la suite dans les idées.
Ben là, bravo, bravo. J'ai retenu une autre... J'ai vraiment fait des choix en fonction des gens que je connaissais. Si j'oublie des choses, tu me le dis. Il y avait aussi Floconi, Doda, Adra, c'est dans la salle intime.
Absolument. Donc, Oda Adra, qui avait présenté chez nous l'histoire de comment je me suis séparé en deux, c'est une artiste absolument formidable. Et elle nous racontait hier soir, justement, que c'est pendant l'histoire de comment je me suis séparé en deux, pendant les représentations, qu'elle commençait à imaginer la Floconi. Et là, quelques phrases de la Floconi sont nées durant les représentations. Et bien là, c'est le second volet de son travail qu'elle présente pour une deuxième fois, pour une seconde fois, pardon, au Prospero. Et puis, ben on est vraiment très heureux de la recevoir. Mais la Floconi, c'est quoi? Ben c'est une espèce de pays imaginé par Oda où les habitants sont en proie à une paix éblouissante.
Oh, OK, ça va être à voir. Il ne reste plus beaucoup de temps, on pourra pas faire le tour de toute la programmation, mais c'est toujours comme ça quand on fait ces entrevues.
Mais on a pratiquement fait le tour, hein, parce qu'on a une programmation réduite étant donné le projet de rénovation, donc on a fait le tour des principaux projets.
Et il y a des pièces qui continuent de faire des tournées.
Oui, c'est Regards amoureux, entre autres, la pièce dont on a parlé au tout début, qui s'en va à Rouen, Jonquière, Québec et Aubic.
Oui.
Et Surveiller et puni, qui est le spectacle que j'ai créé, avec Safia Nolin. On va à Hambourg, en Allemagne, cette année, aussi à Bruxelles, au Hall de Skarbek.
Puis je rappelle aussi que le théâtre Prospero, qui a inspiré d'autres théâtres à le faire, vous avez toujours la billetterie solidaire?
Exactement. Donc, les gens peuvent choisir leur tarif parmi 4 tarifs disponibles de 26 à 55 $. Donc, vraiment très peu cher et au choix. On ne demande aucune preuve.
en fait, si j'ai bien compris, vos revenus de la billetterie n'ont pas diminué.
Non, ils ont augmenté.
Faut le faire. Merci beaucoup, Philippe Cyr. Merci d'être venu à cette émission.
Merci encore.
C'est le temps de vous dire merci parce que nous, c'est jeudi, mais c'est un beau jeudredi. On est en congé demain jusqu'à lundi. Je remercie Maurice Bolduc à la régie. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis très heureux encore de remplacer Hélène Denis. Hélène sera de retour le 1er septembre. À très bientôt, à la semaine prochaine.